Bon, on a vu en fin de semaine certaines informations circuler au sujet de la disparition de cette jeune femme originaire de Sherbrooke, Edith Blais, disparue donc avec son compagnon italien du Burkina Faso. Et là, l'info circulant en fin de semaine, laissant sous-entendre qu'elles aient, en fait, que c'est les deux n'avaient pas été kidnappés, qu'ils auraient quitté le pays, que bref, ils sont allés travailler ailleurs. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Première question, qu'est-ce qu'on sait de ces mésaventures entourant ces deux jeunes?
Ben, ça reste encore mystérieux, Paul. Ça fait maintenant, ils ont disparu depuis le 15 décembre. Le dernier à les avoir vus vivants, je dirais, c'est un expatrié français chez qui ils avaient passé la soirée et la nuit à Bobo-Dioulasso. C'est une ville à l'ouest du Burkina. Et ils devaient continuer leur route jusqu'au Togo pour un projet humanitaire. Mais avant, ils avaient décidé de faire du tourisme dans plusieurs pays africains. Puis depuis, c'est le silence total, à la fois d'Ottawa et de la famille. Et ce qu'a déclaré hier, en fin de semaine dernière, le ministre de la Communication du Burkina, il dit « Nous sommes certains que leur vie n'est pas en danger et qu'ils seraient probablement détenus dans un pays voisin ». Mais ça vient un petit peu en se superposer à un rapport qu'avait dévoilé l'ONG Human Rights Watch, qui, il y a quelques jours, eux, affirmaient qu'ils auraient été transférés par le groupe qui les a kidnappés au Mali voisin. Et ils tenaient ça d'une source sécuritaire de ce pays.
Mais là, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, là, le Burkina dit, bon, ils sont pas ici.
Oui.
Et on pense qu'ils sont détenus ailleurs. C'est sûr que Mme Blais n'est pas en liberté, là.
Non. Puis, je vais vous dire, Paul, moi, ça me rappelle le cas que peut-être les gens vont se souvenir. C'est des deux diplomates canadiens, Robert Forer et Louis Gay, qui avaient été kidnappés au Niger par une branche locale d'Al-Qaïda en 2009. Et immédiatement, ce groupe djihadiste les avait emmenés aussi au Mali. Ils avaient été détenus là au Mali pendant 4 mois dans des conditions assez misérables. Ils avaient été libérés probablement en échange d'une rançon, même si ça n'a jamais été confirmé. Mais dans le cas d'Edith Blais et Lucas Taketo, faut savoir que le Burkina, là, c'est un pays qui est en train de sombrer dans le chaos, comme malheureusement le fameux Mali qui est juste au nord et d'autres pays du Sahel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de groupes djihadistes qui sont en train d'en faire leur terrain de jeu. Et en même temps, il y a des violences intracommunautaires. Et le Burkina Faso n'a pas les moyens de lutter contre cette espèce de plonger dans l'abîme djihadiste. Et il y a 3 groupes djihadistes vraiment qui sont très actifs là. Il y a Ansar al-Islam, il y a le GNIM qui détient déjà au moins 5 otages occidentaux, puis qui en décembre dernier avait diffusé des vidéos, des preuves de vie, mais qui depuis se tait, parce qu'ils disent qu'ils sont en conflit avec la France sur la libération. Et l'État islamique au Grand Sahara, qui, je vous le rappelle, a revendiqué il y a quelques jours l'enlèvement et l'assassinat d'un géologue canadien d'Halifax. Ça, c'était arrivé le 15 janvier. Et pour prouver leur dire, ils ont même mis dans leur revue Al-Naba la copie de son permis de conduire. Donc, moi, je trouve que la thèse de l'enlèvement par un groupe criminel, mais probablement djihadiste, se tient et a de l'allure.
Mais il y a quelque chose qui est frappant, c'est de voir le silence. La famille ne parle pas, puis on peut les comprendre. Le gouvernement ne donne aucune information.
Non, on a des communiqués vraiment laconiques. Moi, j'en ai reçu un ce week-end qui est quasiment la copie conforme de celui qu'on reçoit depuis le début.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des pourparlers? Est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on tente de pas attirer les projecteurs pour essayer d'obtenir une libération? Puis ça rappelle des cas, on a vu la Croix-Rouge, entre autres, à propos d'une infirmière qui a été enlevée en 2013. On est en 2019 et on a su finalement hier qu'elle avait été enlevée.
Ça, si on peut faire une parenthèse, c'est une histoire vraiment incroyable, effectivement. C'est une infirmière qui a été kidnappée avec ses 2 chauffeurs syriens en octobre 2013, alors qu'elle amenait des médicaments puis des biens pour le comité international de la Croix-Rouge à Idlib, au Nord-Syrie. Très vite, on a su qu'elle a été détenue à Raqqa, qui était, entre guillemets, la capitale informelle du groupe armé en Syrie. Elle était dans un endroit, d'ailleurs, il y avait d'autres journalistes, y compris des journalistes français, dont Nicolas Hénin, qui a été libéré plus tard, et aussi avec le regretté James Foley, qui lui a été plus tard décapité, on s'en souviendra, par le groupe armé État islamique. Et le comité international de la Croix-Rouge a eu des échanges avec le groupe armé, avec l'État islamique, qui au départ réclamait 1 million d'euros, donc 1 million et demi de dollars. Après, ils sont montés à 20 millions, puis sont redescendus à 5 millions d'euros, qui était le prix moyen d'un otage occidental en Syrie. Puis après, l'État islamique a coupé les communications, mais la Croix-Rouge a eu des nouvelles d'elle de façon très ponctuelle. Puis ils ont appris que finalement, elle avait été vue depuis ça de très bonnes sources en train de soigner des gens sur le territoire du groupe armé État islamique. Donc finalement, elle continue son travail. Et ce qu'ils pensent, puis ils ont parlé hier parce qu'ils disent avec la chute du groupe armé à Barouz, où on était il y a quelques jours, ils pensent qu'elle serait dans ce coin-là parce que c'est un des derniers endroits où elle a été vue il y a quelques semaines. Et elle est peut-être dans un de ces camps là qui sont submergés de réfugiés, de djihadistes. Peut-être qu'elle est cachée là, qu'elle n'ose pas sortir. Et ils ont bon espoir de la retrouver vivante, quoi.
Mais ça veut dire que la politique du Canada, c'est toujours la même. On ne paye pas officiellement.
Officiellement, comme tous les pays anglo-saxons. Puis Justin Trudeau l'avait répété en 2016. Il faudra se souvenir qu'il y avait deux Canadiens qui avaient été enlevés par un groupe djihadiste à Busayaf aux Philippines. Et Justin Trudeau a dit publiquement, on ne paiera pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces deux Canadiens-là ont été décapités. Donc, il faut que la population soit prête à accepter ça. Mais il y a des pays, en gros, ou plus européens, je dirais qu'eux ont pour habitude, je dirais, ça dépend du terrain sur lequel ils sont, du pays, d'utiliser. Ils vont dire, on ne paye pas, mais ils vont utiliser des intermédiaires qui, eux, vont payer. Ça peut être un autre pays tiers en Afrique qui va se débrouiller pour faire libérer les otages. Puis en échange, on va, disons, lui donner quelques matériels militaires, des petites choses pour améliorer son ordinaire quotidien. Comme ça, l'honneur est sauf.
Un intermédiaire.
Puis Robert Fuller et Louis Gay ont dit qu'ils ont été libérés contre $1 million. Mais il y a un ancien ambassadeur de France puis qui a été le patron des services secrets français qui, lui, a fait un livre. Il raconte que lui... Il dit qu'il faut, un, être toujours discret dans l'histoire de prise d'otage, jamais payer, très rarement payer, et puis unité de gestion. Puis il dit, mais de toute façon, c'est toujours du cas par cas, ça dépend. Mais un truc qui est important, il dit, c'est que la négociation, ça doit être un des outils qu'on a entre les mains. Il faut que chaque État qui ait des otages soit prêt à aller les chercher par la force. Puis que si jamais ça foire ou qu'on réussit, il faut avoir bonne mémoire. Faut toujours se débrouiller pour aller chercher les responsables et les traduire en justice ou éventuellement les supprimer sur place. Ça rappelle un peu la méthode des Israéliens, quoi.
Ouais. Merci, Fabrice. Fabrice de Pierrebourg, il est 9h02.